ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, la pleine lune dans vos oreilles sur 93.8 MHz, et oui, nous sommes toutes réunies, l'équipe au complet, c'est septembre, la rentrée pour tout le monde, pour nous aussi, pour la radio. Eh bien, au programme, dans quelques instants, les informels, et puis Marjolaine qui vous ouvre son cœur. Dans quelques instants, c'est les nouvelles. Radio Pleine Lune, 3.8 MHz, Sonde Femme, Radio Zone, nos nouvelles. Cet été, le premier congrès mondial sur l'exploitation s'est tenu à Stockholm. Toutes les 130 délégués du monde entier sont venus à la tribune, conspuer bien sûr cet infâme commerce du sexe qui implique des enfants. L'histoire de la Belgique et les crimes de Dutroux pesaient bien sûr sur l'atmosphère. Carole Bellani, directrice de l'UNICEF, a dénoncé les exploiteurs, cependant, qui gagnent des milliards grâce aux enfants, mais aussi elle a dénoncé la discrimination ethnique, l'inégalité raciale, qui sont directement liées à cette exploitation. Selon le ministre allemand, Klaus Kinkel, il devrait aussi, toute l'action devrait se concentrer sur les utilisateurs de la prostitution et pas seulement sur les enfants qui se prostituent. Jamais ces gens devraient nulle part se sentir en sécurité. Ce qui semble être aussi l'avis du représentant du Sri Lanka qui dit « Vous dites qu'il y a dans mon pays 30 000 enfants prostitués, cela veut dire qu'il y a au moins 30 000 clients. Alors dites-nous qui ils sont, donnez-nous des noms. » Le congrès s'est terminé par une série de recommandations, mais les ONG qui travaillent sur le terrain sur ce problème sont assez peu contents. Ils pensent que toutes ces recommandations risquent de rester lettre morte. Quant à la Suisse, il faut savoir qu'elle est en tête d'une liste peu flatteuse sur les pédophiles. La Suisse, en effet, a le plus fort pourcentage des abuseurs sexuels condamnés en Asie. Mais la plupart des exploiteurs, qu'ils soient européens ou américains, échappent bien sûr à la police. 10 Suisses ont été arrêtés et condamnés entre 88 et 96 en Asie pour pédophilie et abus sexuels. Ça peut paraître insignifiant, mais quand même, la Suisse arrive en 7e position dans le classement peu flatteur des exploiteurs sexuels d'enfants asiatiques. Les premiers sont les Américains avec 58 arrestations, suivis des Allemands, des Anglais, des Australiens, des Français, des Japonais et enfin des Suisses avec 10 personnes. Mais en fait, si on rapporte cela à la population, proportionnellement, par rapport au nombre de ses habitants, la Suisse est le pays qui a le plus fort pourcentage des abuseurs sexuels condamnés, a indiqué un des responsables de cette campagne. En Afrique, nomination d'une femme, Ruth Perry, nouvelle présidente du Conseil d'État du Libéria. C'est une présidence collégiale de transition qui a été donc nommée le week-end au mois d'août au Nigeria en marge du sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le CEDEAO. Ruth Perry a été donc arrivée à Monrovia, accueillie par des milliers de femmes qui étaient venues déjà plusieurs jours en scandant des slogans « Women can do it », « Les femmes peuvent le faire ». La nomination de Ruth Perry est également un grand espoir de paix. Elle a en effet déclaré que les différents chefs des factions responsables de la guerre civile lui ont, je cite, promis un prompt désarmement et la réconciliation et s'étaient engagés par leurs propres paroles. Tous espèrent donc que cette nomination de cette femme permettra une issue à des années de guerre civile qui ont ravagé le pays et fait des centaines de milliers de morts. Au Koweït, les femmes ont manifesté dans la ville de Koweït City pour leur droit de vote. Les prochaines élections au Koweït sont prévues en octobre. Cette date provoque un débat intense sur le droit de vote des femmes. En effet, les femmes n'ont pas accès aux urnes, mais ce débat est ouvert actuellement au Parlement sur cette question sensible. Par ailleurs, on peut dire que le Koweït n'est pas le plus mal loti par rapport au pays des Émirats, puisque, au contraire de l'Arabie Saoudite, les femmes peuvent conduire leur voiture et un certain nombre d'entre elles ne sont pas voilées. Elles occupent également des postes à responsabilité. On a également soulevé que sur le plan des droits de l'homme, le Koweït a encore beaucoup de progrès à faire. La situation surtout des travailleurs étrangers y est régulièrement dénoncée. Il suffit de se rendre à l'ambassade du Sri Lanka, par exemple, où 300 femmes domestiques sont entassées dans les couloirs. Elles ont été chassées de leur travail par des employeurs qui les sous-payent et parfois abusent d'elles. Bouyan est l'une d'entre elles. Le 17 juin, cette jeune secrétaire a été battue par son patron qui lui a rasé une partie de la tête. Ses bras sont lardés de coups de couteau. Il voulait la renvoyer discrètement dans son pays, mais à l'aéroport, les autorités ont mis un coup d'arrêt à cette tentative. En Inde, une loi a été votée pour soulager les femmes du travail ménager. Les femmes indiennes pourront bénéficier, de par la loi, d'un jour de congé hebdomadaire. Certaines femmes applaudissent l'idée, mais la plupart pensent cependant que la proposition de loi n'a aucune chance d'être adoptée ou d'être appliquée si par hasard elle entrait dans les textes. C'est une parlementaire, Madame Saroj Kapard, qui a récemment déposé cette proposition de loi qui s'intitule « La loi sur le congé hebdomadaire obligatoire des ménagères » afin de permettre aux Indiennes d'oublier une fois par semaine la cuisine, le ménage et autres tâches domestiques. Le projet impose aux autres membres de la famille de prendre la relève pendant ce congé hebdomadaire et prévoit des amendes allant jusqu'à 1000 roupies pour ceux qui voudraient s'y soustraire. Aux États-Unis, Bill Clinton, cédant aux conservateurs, a signé une réforme radicale de l'aide sociale. Le chef de l'exécutif a annoncé à la fin juillet qu'il allait donc signer cette législation préparée par la majorité républicaine, portant réforme sur l'aide sociale aux États-Unis. C'est tout le système de protection sociale, patiemment établi par les démocrates depuis plus d'un demi-siècle, qui va se donc trouver ébranlé. Les mères célibataires sont les principales visées. En effet, donc, cette nouvelle réforme propose que chaque État dispose maintenant d'une somme forfaitaire pour financer les programmes sociaux avec une grande latitude de décision, ce qui permettra à certains États réactionnaires de ne rien financer du tout. En tout cas, tout Américain dont la famille bénéficie de l'aide sociale devra avoir trouvé un travail à l'issue d'une période de 2 ans, faute de quoi ces prestations seront supprimées. Au bout de 2 mois sans emploi, les adultes devront effectuer des tâches d'intérêt communautaire, à moins que l'administration locale en décide autrement. Personne ne pourra bénéficier du welfare pendant plus de 5 ans au cours de sa vie. Les États sont censés devenir des instruments du changement social, puisqu'ils recevront un bonus s'ils parviennent à réduire le taux de naissance illégitime, c'est-à-dire à faire que les femmes se marient. Chacun des États devra faire en sorte qu'au moins la moitié des mères célibataires recevant une aide sociale aient trouvé un emploi ou une activité avant 2000 ou un mari. Faute de quoi, la somme forfaitaire accordée par le gouvernement sera amputée. De plus, les États pourront refuser d'accorder la moindre allocation aux mères célibataires de moins de 18 ans qui ne vont pas à l'école ou ne vivent pas chez un adulte, c'est-à-dire leurs parents. Bien sûr, cette loi, signée surtout pour des raisons électorales, a bien sûr fait réagir toute une partie de l'électorat démocrate et de nombreuses organisations féministes. D'ailleurs, toujours pour parler des États-Unis, citons que dans l'Idaho, dans l'État de l'Idaho, pour lutter contre la multiplication des grossesses chez les adolescentes, les autorités d'Emmett, une petite ville, ont exhumé une loi de 1921 stipulant, je cite, que toute personne non mariée ayant des relations sexuelles avec une personne non mariée de sexe opposé se rend coupable de fornication et peuvent donc aller en prison. Les fornicatrices, seulement elles, encourent une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison. Principale cible de ces poursuites, les adolescentes qui bénéficient de l'aide sociale. Non seulement leur grossesse coûte cher aux contribuables, mais selon le procureur Vary, responsable de cette loi, je cite, les enfants nés d'une mère célibataire et adolescente ont 3 fois plus de risques d'aller en prison qu'un enfant ayant ses 2 parents. La première victime de cette loi s'appelle Amanda, elle a 15 ans, elle est enceinte, elle a été condamnée à 1 mois de prison. En Pologne, une nouvelle loi vient d'être votée qui rend de nouveau l'avortement légal. Le président polonais Kwasniewski, vainqueur de Lech Walesa en automne dernier, avait fait de l'avortement un des principaux thèmes de sa campagne électorale. La très sévère loi de 1993 interdisait l'avortement, elle devait être abrogée. Finalement, c'est chose faite au début septembre. Le vote, dont l'issue s'annonçait incertaine, a quand même été gagné. La loi a été fortement assouplie. L'interruption volontaire de grossesse sera désormais autorisée en Pologne jusqu'à la 12e semaine en cas de graves difficultés matérielles ou personnelles de la mère. En 1994, un premier projet libéralisant la loi anti-avortement votée par le Parlement, dominée toujours comme aujourd'hui par la coalition du Parti paysan et du Parti de droite, s'était heurtée au veto du président Lech Walesa, proche de l'Église catholique et farouchement hostile à l'avortement. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi en 1993, l'avortement était pratiquement interdit en Pologne sous peine de 2 ans de prison ferme pour le médecin ou toute autre personne la pratiquant, majorée d'une interdiction d'exercer pendant 6 ans. En tout cas, selon la présidente de la Fédération des femmes et du planning familial, la loi n'a fait qu'encourager le développement du marché noir de l'avortement. Ce sont en général des femmes les plus démunies, vivant à la campagne, ou des adolescentes qui s'en remettent parfois au péril de leur vie et le plus souvent de leur santé, aux promesses de petites annonces de gynécologues relativement explicites ou qui partent en Ukraine où l'avortement est autorisé. En tout cas, cette nouvelle loi a bien sûr été fortement critiquée par le pape qui s'est élevé, comme toujours, avec son sens de la répartie bien connu. Toujours en ce qui concerne l'avortement, cette fois-ci c'est la Bavière qui défie le droit fédéral allemand sur l'avortement en le rendant plus difficile dans cet État. Le Parlement régional de Bavière a voté fin juillet une législation sur l'interruption volontaire de grossesse qui d'ailleurs suscite des vives réactions dans le reste de l'Allemagne puisque l'Assemblée bavaroise a voté une nouvelle législation qui oblige les femmes souhaitant interrompre une grossesse à exposer leurs motifs afin d'y être autorisées. Elle stipule entre autres que les médecins ne doivent pas tirer plus d'un quart de leurs revenus de la pratique de l'avortement. Aujourd'hui, selon la loi allemande, les femmes doivent prendre conseil avant un avortement mais n'ont absolument pas besoin d'expliquer leurs motifs. Petite nouvelle de l'Équateur, deux femmes considérées comme sorcières ont été condamnées par la population. Elles devaient au départ être brûlées vives, comme le veut la coutume locale. Mais après réflexion et en discutant avec la police, les habitants de Calguazig, en Équateur, se sont contentés de flageller les coupables, puis de frotter leur corps avec des orties, en public et devant les caméras de toutes les télévisions. Margot et Alicia étaient accusées de sorcellerie. Ça s'est également passé pendant le mois de juillet en Angleterre avec leur bonne mine pour seul laisser passer. Deux jeunes anglaises, militantes antinucléaires, ont pénétré jusqu'à dans la salle de commande d'un sous-marin nucléaire sur la base de Clyde en Écosse. De ce lieu stratégique, elles se sont offert une victoire simple, un coup de fil. Elles ont téléphoné à leurs amis du camp de la paix, groupe antinucléaire dont la caravane est postée à l'entrée de la base, en disant qui sait quelles sommes ont été dépensées pour la sécurité sur cette base. Et voilà que deux femmes peuvent pénétrer jusqu'aux commandes d'un sous-marin. L'histoire ne dit pas comment elles en sont ressorties. Et puis toujours au mois de juillet, les lobbies des femmes européens a fait une grande victoire et a fait plier la marque d'eau minérale Perrier qui a dû céder face à la présidente du lobby européen des femmes qui lui avait donné jusqu'au 29 juillet pour retirer sa campagne d'affichage jugée offensante pour les femmes. En Belgique, en tout cas, la publicité conçue par la filiale belge de Publicis montre le buste de trois jeunes femmes, uniquement habillées, de capsules de Perrier sur le bout des seins. Le titre évocateur de Wonderbull complète le tableau. Cette représentation entretient une image dépassée du rôle des femmes dans la société, estime Gertrude Wartenberg. La direction de Perrier au Vittel a décidé donc de cesser sa campagne d'affichage après avoir constaté que cette campagne publicitaire, qui se voulait un clin d'œil, pouvait choquer certaines personnes. En France, plus d'un tiers des enfants naissent hors le mariage. Pour la première fois depuis la guerre, le nombre des couples mariés a diminué. De 82, il a chuté. Et puis surtout, ce qui est le plus fort dans ces statistiques, c'est donc l'augmentation des naissances hors mariage. Il y en avait 11% en 80, il y en a 36% en 94. Et puis, ça n'a rien à voir avec un enfant naturel, adultérin, l'enfant de la faute, puisque la proportion de reconnaissance par le père progresse. 70% des pères reconnaissent les enfants. Il serait intéressant maintenant de savoir si avec les nouvelles mesures fiscales, les gens se marient de nouveau en France. En Suisse, les femmes démocrates chrétiennes font de la résistance à Fribourg. Après un sérieux revers aux élections communales de ce printemps, les femmes PDC fribourgeoises boudent les listes électorales. Rares sont les candidates prêtes à se lancer dans la course au Grand Conseil cet automne. Le PDC d'ailleurs n'est pas le seul à connaître un tel sort. La liste radicale démocrate chrétienne est entièrement masculine. Les femmes ont donc refusé d'être toujours en queue de liste. Les femmes ont acquis assez de maturité politique pour comprendre que dans la constellation actuelle, une femme n'a aucune chance, relève la démocrate chrétienne Françoise Eisenring, une routinière de la politique. Actuellement, dit-elle, les femmes qui se mettent sur une liste vont au casse-pipe. D'abord, elles ne sont pas épargnées pendant la campagne, ensuite, elles ne sont pas élues ou seulement en queue de liste. C'est ce qui explique ce refus de finalement jouer les femmes alibi sur des listes dont on sait très bien qu'elles ne sortiront jamais vainqueurs. Et puis à Genève, les sages-femmes protestent. Elles pourraient perdre un quart de leurs revenus. Les sages-femmes indépendantes font les frais d'une convention nationale. Ces sages-femmes indépendantes du canton de Genève craignent une baisse de leurs revenus de 12 à 25% en raison de la nouvelle convention nationale ratifiée en juin dernier qui lie l'Association suisse des sages-femmes et le Concordat des assurances maladie. Selon Lorenza Bettoli, présidente de la section genevoise de l'Association suisse des sages-femmes, on estime à 2500 le nombre des journées d'hospitalisation économisées chaque année grâce au service des sages-femmes indépendantes. Parmi les 140 membres que compte la section genevoise de l'Association des sages-femmes, une trentaine pratiquent actuellement de manière libérale. Ces sages-femmes peuvent assurer l'accompagnement général d'une femme enceinte, de la grossesse à l'accouchement et au-delà, et également pour les accouchements à domicile. 13% des accouchements du canton passent actuellement entre leurs mains et 1% des accouchements se fait à domicile. Le recours aux sages-femmes indépendantes se développe, estime Lorenza Bettoli. Il s'inscrit dans la politique de santé publique actuelle qui vise à faire diminuer les séjours hospitaliers. Or, près de 90% de leur travail s'effectue à domicile et reste lié au déplacement, ce dont ne tiennent pas compte les nouvelles mesures prises par les assurances, ce qui explique donc cette chute vertigineuse de leurs revenus. Et puis toujours à Genève, cet été, l'association des femmes Viol Secours a envoyé une lettre ouverte à Ramseyer, président du département de justice et police des transports, s'insurgeant contre l'autorisation donnée pour l'ouverture d'un peep show à Genève, alors qu'une même demande avait été rejetée à juste titre il y a 2 ans par le même département de justice et police. Elle s'indigne en disant « Le peep show est un commerce fondé sur l'exploitation des femmes, dont le principe premier est le profit. La femme est réduite à un corps-objet soumis au regard des consommateurs cachés. Le peep show est d'autant plus pervers qu'au prix de 1 franc la minute, il est accessible à un vaste public alors qu'il véhicule une image dégradante des femmes ainsi que des conceptions très sexistes des rapports hommes-femmes. En autorisant l'ouverture d'un tel lieu, l'État se rend complice de l'extension de ces pratiques dégradantes. » Nous recusons, disent-elles encore, les justifications avancées par ceux qui vantent le peep show comme étant un moyen propre de consommer du sexe sans s'exposer au sida et en plus en donnant de l'emploi avec en fournissant des postes d'emploi. Comment peut-on parler d'emploi, disent-elles encore, alors qu'il est évident que le fonctionnement de cette entreprise particulière va renforcer le trafic dont sont victimes les jeunes femmes originaires des pays de l'Est, de l'Europe et des autres continents. Les femmes recrutées pour ce genre de travail sont contraintes, par excès de pauvreté, d'accepter des conditions de travail dégradantes sans aucune protection sociale. C'est donc signé par Viol Secours avec plein d'autres associations, comme le comité contre le harcèlement sexuel, Espace Femmes International, la librairie L'Inédite, SOS Femmes, l'Association des familles monoparentales, le collectif du 14 juin, Filigrane, Solidarité Femmes, etc. J'aimerais vous rappeler que le groupe Femmes des Conseils de l'Europe pour une politique extérieure, le Frauenrat, veut reprendre donc la question de l'Europe et prépare toute une série de discussions. Il ne s'agit pas seulement de débattre autour de l'Union européenne, mais toutes les autres institutions européennes intéressent les femmes. Le Conseil de l'Europe, la Convention européenne, les droits de la personne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération. C'est pourquoi le groupe des femmes, donc le Frauenrat, organise 6 réunions autour de ces questions, mais c'est à Olten, mais quand même c'est très intéressant. Il y a eu une première réunion le 31 août sur le thème migration et Europe avec la participation d'Annie Lance. D'autres réunions sont prévues jusqu'en 97. La prochaine, c'est donc en octobre sur le thème de l'Europe et la démocratie avec Maya Dubar-Poulfer et Annette Hoog. Si cela vous intéresse, eh bien vous nous téléphonez au 50 40 51 41 et nous vous donnerons tous les renseignements qui sont nécessaires. Bien, je termine par quelques petites annonces avant de laisser la place à Marjolaine et ses coups de cœur. Une invitation est donnée sur le thème « Pour qui est-ce que je me lève le matin ?» Ça, c'est vraiment une bonne question. On discutera de la dépendance à l'autonomie dans la vie amoureuse. Et oui, l'amour, l'amour, l'amour toujours. C'est une soirée, donc c'est en fait tout un cycle de développement personnel qui est proposé par Christine Meinhardt et Elisabeth Coq, deux psychothérapeutes, et qui vous propose une première rencontre. Ça se passe le lundi 9 septembre à 18h30 à l'Institut ODEF, 65 rue de Lausanne. Et c'est donc pour vous parler de ce cycle de discussion, de prise de conscience sur la relation amoureuse et la dépendance. Autre invitation, le vendredi 13 septembre, c'est le centenaire du premier congrès national des intérêts féminins qui a eu lieu donc à Genève en 1896. Eh bien, donc il y a une invitation qui est faite par le Bureau de l'égalité entre hommes et femmes de rue de la Tannerie à Genève, et on y parlera entre autres de la brochure, des centaines de résolutions et une petite révolution. J'aimerais encore vous parler d'une publication. C'est Françoise Berthoux, médecin, qui vient de publier Quintessence 2. C'est donc un petit livre sur le quotidien d'une pédiatre homéopathe. C'est des trucs d'homéopathie, mais c'est aussi comment ce que on vit. C'est des messages aux parents de jeunes enfants sur la santé physique, mentale. Voilà. Ce livre est disponible à Casse Postale 25 1253 Vendeuvre. Je répète, Casse Postale 25 1253 Vendeuvre. Et je termine en vous parlant d'une nouvelle association musicale qui s'intitule Legato. Ce sont quatre groupes musicaux bien connus à Genève, puisqu'il s'agit de l'ensemble 415, de l'ensemble Contrechamp, de l'orchestre de chambre de Genève, l'orchestre de chambre de Genève et du Centre international de percussion. Ces quatre organisations ont décidé de se mettre ensemble pour parler et faire de la musique ensemble. C'est très intéressant puisqu'on passe de la musique baroque à la musique contemporaine, à la musique romantique. Enfin, une manière de faire de la musique moins cloisonnée, moins séparée. Et ce petit journal qui s'intitule Legato vous en parle beaucoup mieux. Vous pouvez vous abonner. Ça coûte 180 ou 140 francs. Ça propose 8 concerts. Et puis, si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à Legato, Casse Postale 67 1211 Genève 25. Mais nous reviendrons, j'espère, avec les auteurs de cette association sur ce groupe qui nous intéresse beaucoup et cette démarche musicale. Voilà, les nouvelles sur la pleine lune se terminent. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine, et Marjolaine est là avec un cœur gros comme ça.
Alors, ne quittez pas, dans 2 minutes, eh bien oui, c'est le Memento de Marjolaine. En attendant, nous allons vous mettre un peu de musique agréable, quelque chose de doux pour vos oreilles.
Alors, moi j'aimerais bien que tu les mettes parce que je...